Vous avez évoqué le mouvement des Gilets jaunes dans votre introduction. Alors, moi, j'ai quand même une petite question. Que pensez-vous du fameux référendum d'initiative citoyenne qui est quand même mis en avant dans les manifestations par rapport justement à ce côté référendum d'initiative citoyenne qui, pour certains, est la panacée en termes de démocratie? Voilà ma première question.
Le problème, c'est aussi de faire confiance aux lois qui seront votées avec ces référendums. Même si les décisions ou les votes qui sont proposés sont sérieux ou vont dans le sens des travailleurs, est-ce qu'ils seront respectés? Je pense par exemple à l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Il y a une loi. Je veux dire, les patrons qui ne respectent pas l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes sont passibles d'emprisonnement. Il n'y en a aucun en prison pour ça, quoi. Et on sait tous que, enfin, cette inégalité, j'ai pas les chiffres, mais elle est énorme. Donc, c'est là-dessus que nous, on préfère dire, voilà, que quel que soit le gouvernement, le système politique, quelle que soit la façon qu'on aura de voter les lois, si nous, on ne contrôle pas, si on ne contrôle pas, non seulement les élus, mais aussi les entreprises, ce que font les patrons dans les entreprises avec leur argent, on va avoir du mal à faire respecter des lois fondamentales, quoi, même des lois qui sont déjà votées.
Pourquoi vous ne cherchez pas à faire une alliance de la gauche pure pour essayer de plus peser au niveau des élections?
Après, tu parlais de la gauche, mais quelle gauche? Non, avec qui? Avec ceux qui nous ont déjà exploités, comme Hollande, Hamon, tout cela. On les a vus. On a eu l'union de la gauche pendant quelques années, quand même. Hein? On sait ce qu'ils ont fait. On va pas y revenir. Pour nous, c'est des ennemis, c'est même pas des traîtres. Ils sont du côté de la bourgeoisie. Et tout cela, ils rentrent dans le discours Europe ou pas Europe. En fait, d'un côté, on venait nous faire croire, comme l'a dit le camarade, que c'est la faute de l'Europe pour tout. Et ça arrange quand même pas mal de patrons. De dire, c'est pas moi, c'est l'Europe. C'est le chiffon rouge qu'on agite là. Hein. Foncez sur le chiffon rouge, pas sur le mec qui le tient. Parce que quand même, ils n'ont pas besoin de l'Europe pour faire toutes les lois contre le monde du travail. La loi travail faite sous Hollande par Macron, ce n'est pas l'Europe qui leur a dictée. Et la loi travail, c'est plus de flexibilité, moins de droits pour les travailleurs. Les attaques sur la retraite, ils n'attendent pas l'Europe. Alors ça veut dire, oui, mais il faut l'harmonie européenne et tout, quand ça les arrange. Et on ne veut surtout pas, c'est de mettre notre voix avec tout ce qu'ils disent aujourd'hui. Vive la nation, l'étranger c'est l'ennemi. On a une montée quand même des idées réactionnaires, racistes, xénophobes, qui est quand même dangereuse. À essayer de nous le mettre les uns contre les autres toujours. On ne veut surtout pas aller nous voir à tous ceux qui disent c'est la faute de l'Europe. On ne défend pas l'Europe du capital, ça on sait bien que c'est un outil entre leurs mains, ils en ont besoin pour faire des affaires, pour faire du fric. Mais nous faire croire qu'en refermant les frontières, on serait mieux, il n'y a pas pire. Donc là, on veut avoir une voix claire. Et on veut surtout affirmer que nous, notre problème, c'est que les travailleurs défendent leur peau. On voit tout le monde se battre pour se défendre. Les patrons, ils savent le faire. Ils sont moins nombreux que nous. Beaucoup moins nombreux que nous. Et ils le font bien. Eh bien, nous, bon, on n'a pas la télé, on n'a pas. Mais on peut quand même. Les Gilets jaunes n'ont pas attendu la télé pour se mettre dans la rue. Et nous, on pense que dans les usines, partout où on produit, on pourrait faire la même chose. Et c'est ce qu'on veut affirmer, le camp des travailleurs. On veut être la voix de tous ceux qui bossent aujourd'hui, qui sont au chômage, qui ont des problèmes de fin de mois, des mères de famille qui se retrouvent seules, des retraités avec des pensions avec lesquelles ils n'arrivent pas à vivre. Mais ça, c'est le monde du travail. C'est notre classe. Et personne d'autre porte cette voix aujourd'hui.
Oui, bonsoir. Voilà, moi j'aimerais savoir quelle action avez-vous voilà, contre ceux qui sont vraiment plus bas que l'échelle. Comment vous pouvez éventuellement les inviter à vous rejoindre dans votre démarche? Parce que eux, en attendant, ils demandent en quoi en premier? C'est à manger. Voilà. C'est de sortir de la misère.
Nous, on est des militants politiques, on est aussi des militants syndicaux, on est des militants là où on travaille, là où on vit. Moi, je suis professeure des écoles, dans l'école où je travaille. Ben, au début de l'année, on avait une famille sans logement. Donc on s'est organisé, c'est pas que moi, avec le DAL aussi, avec les syndicats enseignants, pour se battre, pour se mobiliser, pour ne pas être indifférent effectivement à ce qui se passe autour de nous. On n'est pas indifférent à ce qui se passe autour de nous. Alors des aides qu'on pourrait apporter immédiatement, on n'en a pas. On n'est pas. Voilà. Cette famille-là, on lui a trouvé un logement, hein, elle est logée maintenant, parce qu'il y a une mobilisation. Mais aujourd'hui à Toulouse, là, la Dépêche a sorti des chiffres, c'est 5 000 personnes à la rue. On en voit partout au centre-ville, des tentes avec des familles. Alors ça, si tu veux, moi je pense que le plus efficace, c'est ce qu'on fait là. C'est que ce système, il faut l'abattre. Et que les perspectives, elles sont là. Si on ne change pas la société, on ne changera rien. Nous, on essaie de défendre cette idée-là, de la mettre dans la tête des gens, des travailleurs. Comme quand tu disais, on n'apprend pas... Voilà, on respecte la propriété privée, on croit que ça, c'est... on ne peut pas faire autrement, mais il faut que nous, on défende l'idée que nous, en tant que travailleurs, on a le droit aussi de diriger. Ce n'est pas au patron de diriger. Pourquoi ? Ils sont une minorité. Il faut qu'on mette ça dans la tête des gens. C'est à nous de diriger cette société, on la ferait bien, bien meilleure. Mais on est des militants de tous les jours, donc ça nous arrive souvent d'être dans les manifestations, dans les actions, dans les aides concrètes. Mais c'est vrai que notre militantisme, il est à construire un parti qui défendent cette idée qu'on peut changer la société, renverser la société, qu'il faut exproprier la bourgeoisie.
Qu'on peut... Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait pour les pauvres ? Mais les gilets jaunes, en manifestant, ils ont quand même obligé le gouvernement à faire une annonce en disant « je donne 100 euros de plus par mois ». Alors, il a magouillé un tas de trucs. Mais là, d'un seul coup, quand même, il a été obligé de parler du pouvoir d'achat et des gens les plus démunis. Si effectivement tous les pauvres se révoltent, ça peut faire mal. Bon, on n'en est pas là. Il y a aussi des associations comme les restaurants du cœur. Les restos du cœur. Quand Coluche l'a créé, il espérait que ça allait disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il espérait qu'il n'y aurait plus de pauvres. Mais ça ne fait que s'aggraver. Ils ont demandé de plus en plus de gens pour s'en occuper. De plus en plus d'aide. Alors on peut aider. C'est bien, la solidarité existe d'ailleurs, c'est le plus entre nous et qu'on aide, souvent. Mais quand même, ce qu'il faut, c'est arrêter d'alimenter les pauvres, de fabriquer de nouveaux pauvres. Tout le temps, on va jusqu'où ? On va faire la charité tout le temps ? Non, il faut se révolter, il y en a marre. De voir ces milliards qui circulent, et la misère des gens qui n'arrivent pas à manger dans une société des plus riches, dans les pays les plus riches, alors imaginons dans les pays les plus pauvres, où on en est. Donc aujourd'hui, non mais c'est scandaleux, c'est vraiment mais révoltant, hein. Plus ça va, plus c'est insupportable. Donc oui, il faut se révolter, mais il faut avoir des perspectives, changer le système. Pourquoi ? Qui possède, qui dirige ? C'est quoi le système économique qu'il faut mettre en place ? Nous, on a une réponse. On n'a pas inventé. On a repris ce que les premiers révoltés ont réfléchi. Même les premiers partis ouvriers, c'est quoi ? C'était des partis d'entraide, parce que dans le monde du travail, on n'arrivait pas à bouffer. Quand on était malade, on crevait de faim. Mais il a fallu que les ouvriers s'entraident. Et de leur malheur, qu'ils en aient conscience et qu'ils comprennent pourquoi ils étaient dans cette situation-là. Et ça, c'est les idées de Marx. Qu'on reprend aujourd'hui, ça nous permet de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a des pauvres, il y a des miséreux, pourquoi ça s'aggrave, pourquoi il y a toujours des plus riches, pourquoi on va droit dans le mur, pourquoi il y a la crise. Ça, c'est un programme dont on dit aux travailleurs, emparez-vous de ce programme, il existe. C'est pour ça qu'on se présente aux élections, pour dire chaque fois qu'on le peut, un peu plus ouvertement, eh bien, il y a le camp des travailleurs contre le camp des capitalistes.
Bonsoir. Moi, je voulais savoir comment aujourd'hui atteindre le capitalisme et redonner le pouvoir aux travailleurs. Parce qu'on voit que les gens qui ont fait grève, certains ont été licenciés. On constate qu'à Paris, quand l'État a bougé, c'était uniquement puisque les immeubles bourgeois ont été brûlés. Donc, quels sont les moyens aujourd'hui concrets d'action pour justement arrêter que les actionnaires s'en mettent plein les poches, qu'il n'y ait aucune redistribution des richesses, puisqu'on sait très bien que les actionnaires ne sont plus en France, sont à l'étranger. Donc comment est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour arrêter ça ?
Est-ce que vous condamnez la violence ?
Les policiers ? Ensuite, sur les grèves, bon, on a parlé de l'Algérie, oui, l'Algérie, la répression, en 88, ils avaient manifesté, il y avait eu des grands mouvements. Vous avez tiré à la mitraillette. Hein. Donc, des fois, effectivement, on se fait licencier, on prend des coups. Mais on apprend aussi. Alors, on est peut-être un peu plus intelligent chaque fois. Je ne dis pas qu'il faut accumuler des coups, mais enfin, mieux dire ce qui a été fait. Mais malgré tout, on n'a pas d'autre choix que de se révolter, que de dire non, de s'organiser, de créer, on parlait de parti, mais un parti pourquoi on parle d'un parti? Pour qu'au niveau national, puisqu'on est en France, nous, on puisse au moins de temps en temps avoir une idée de quand c'est qu'il est, c'est le moment d'attaquer. D'avoir tous la même politique face au patron. Si tu veux, le pire aujourd'hui, c'est que l'oppression, l'exploitation, elle est rentrée dans la tête des travailleurs. C'est ça le pire. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin la plupart du temps de flics pour les faire bosser, pour accepter tout. Il y a 6 millions de chômeurs, ça fait une pression d'aide. Et il y a plein de gens qui disent, un peu comme on entend, « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux y faire ?» Mais ça, c'est le pire. J'en ai autour de moi, les élites qui me disent que chaque fois qu'on commence à faire grève et tout, ouais, mais ça va rien changer. Ah ben ouais, c'est ce que le patron veut que tu penses. Ne fais rien, ça ne changera rien. Voilà ce qu'il veut que tu penses. Mais ne marchons pas dans ce jeu-là. Au contraire, s'il nous dit ça, il faut que ça nous révolte, que ça nous réveille. Voilà, il faut penser autrement. Déjà, c'est le premier pas. Après, tu sais, les mouvements, il faut se mettre en grève, bien sûr, mais ce n'est pas nous qui allons le déclencher. C'est le patron, il va en faire une de trop. Le gouvernement qui a failli en faire une de trop avec l'augmentation du pétrole. Qui aurait imaginé qu'une augmentation de plus de l'essence allait mettre tout le pays dans la rue, presque. S'il avait imaginé ça, il ne l'aurait pas fait. Mais comme il en veut toujours plus, il va en faire d'autres. Et on n'a pas fini de voir des salopes. Alors, ce sera lequel qui nous mettra tout le monde en colère, on ne sait pas. Mais en attendant, on a le temps de réfléchir, de voir comment la société marche, de comprendre les rouages et de se préparer.
Je veux savoir, en fait, comment demain on va pouvoir lutter contre les machines? Parce qu'on sait très bien que les dirigeants iront de plus en plus vers l'automatisme, vers les machines, ça se fait de plus en plus, nombre d'emplois qu'on voit qui sont supprimés. Comment nous, on va réussir à lutter contre ça? Aujourd'hui, aucun pays ne taxe les machines. Donc, je
ne
sais pas comment on va lutter
avec
ça.
Je réponds parce que les machines, je connais. Avant, j'étais tourneur fraiseur. J'ai connu les machines où tu étais à la manivelle. Toi, tu faisais les pièces. Alors maintenant, c'est des grands centres d'usinage. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre et tout. Ceci dit, quand tu étais debout devant la machine toute la journée à faire ta pièce, c'était pas mieux que de surveiller la machine qui marche toute seule. Hein, pour faire des pièces, on peut faire. Si je peux bricoler pour moi, chez moi, c'est mieux que de faire des pièces chez moi. Donc les machines, c'est pas le problème des machines, tant mieux. Il y a un tas de boulot, mais quand on tue les gens à porter des poids, à faire des manutentions, j'en connais des boulots à la con. Il y en a un tas. Mais si on pouvait y mettre que des machines, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait du fric dégagé. Là, aujourd'hui, dans ma boîte, on a mis des machines. Donc il y a un ouvrier, il en surveille 4. Donc tu peux dire ça fait 4 chômeurs de plus, ça ne fait pas 4 chômeurs de plus. Parce que la production d'une seule des machines, c'est 10-20 fois ce que produisait un mec. Donc tu vois, 4 fois 20, tu multiplies. Le problème c'est que ce temps-là, il y a de la richesse qui est créée. Et cette richesse-là, elle doit revenir à la population. Le mec, au lieu de rester les 8 heures, et on lui demande de faire des heures supplémentaires et de travailler à 3-8. Une heure par jour, on pourrait donner du travail à tout le monde et les richesses seraient créées. Les 80 emplois supprimés, eh bien, ils pourraient y être, puisque les richesses sont créées pour 80, on pourrait récupérer cet argent-là. C'est-à-dire 80 mecs qui travailleraient le temps d'un. Ça fait quoi, quelques minutes par jour? C'est des calculs, hein? Finalement, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent en France. Pourquoi? Parce que c'est pas cher non plus. D'ailleurs, l'État faisait une publicité en disant que ça était un pays détaxé, à bas coût. Ils le font. Il y en a qui le font. Donc le problème, c'est toujours de contrôler l'économie.
Alors, tu parles d'expropriation. Concrètement, ça se passe comment? Tu fais comment? Tu parles d'expropriation des patrons, tu fais quoi concrètement? Là, on n'est pas dans l'utopie. Tu fais quoi? Comment tu prends l'outil de production? Vas-y, je t'écoute.
Tu as compris qu'on était communiste et révolutionnaire. C'est-à-dire que nous sommes révolutionnaires. Nous pensons qu'il faut faire la révolution. La révolution des travailleurs. Il faut changer ce système. Et ce système, on ne le changera pas par des lois. L'expropriation de la bourgeoisie, on la fera quand il y aura des millions de travailleurs, ou de milliers, je ne sais pas combien, travailleurs en France, quand on occupera les usines. Qu'on dira à la bourgeoisie, ces usines, elles sont à nous. Ah, tu veux prendre tes capitaux et les emmener à l'étranger. Eh bien, dans les banques, il y a des travailleurs aussi. Ils ne vont pas appuyer sur la petite touche pour que ton argent il soit... il aille dans un autre pays. C'est la mobilisation des travailleurs. C'est pas un programme électoral, un programme de gouvernement. De toute façon, la bourgeoisie elle va pas se laisser faire. Il va falloir une vraie mobilisation des salariés, des travailleurs, dans tous les secteurs de l'économie pour pouvoir le faire. Mais on pense que c'est une nécessité. Si on veut partager le travail entre tous, c'est la chose la plus logique qui y ait, mais il va falloir les exproprier.